Il a une petite bibliothèque, paraît-il, chez lui, avec quelques opuscules, quelques petits fanzines, quelques petits pulps. Et je me souviens un jour avoir discuté avec lui, où je me disais, mais est-ce que c'est vrai qu'à une époque, dans des magazines comme Confidence ou Bonne Soirée, ou Nous Deux, on publiait des nouvelles, et que dans le lot, il y avait des nouvelles de science-fiction. Ha, me dit-il, évidemment. Ha, mais il n'y a, tu sais pas ça.
Narquois.
Et je lui ai dit, Francis, tu voudrais nous parler de ça, de ces quatre matins. Et donc il m'a dit, non, le matin, non, mais l'après-midi, éventuellement, oui. Et voilà, nous y sommes. Francis, à toi d'appuyer sur les petits boutons gauche-droite pour faire défiler tes petites images.
Exactement.
Bon. Un dernier mot, il faudra qu'on ait fini complètement, qu'on ait fini nos activités ici à 5h30. Pour que, même un peu avant d'ailleurs, vers 5h15, pour que les tables puissent être disposées pour le dîner. Donc on poursuivra nos diverses activités dans d'autres locaux ici à Rouge, donc il n'y a pas de problème particulier. À tout à l'heure.
Bien, eh bien, nous allons commencer ce petit voyage qui, je vous préviens, sera loin d'être exhaustif, parce que la matière est hyper abondante. Ceci dit, il risque de l'exposé va partir dans tous les sens, vous verrez, parce que justement, il y a de la science-fiction absolument partout. Et on va se focaliser sur une période historique qui est celle de l'après-guerre, qui est la période française d'après-guerre. Ah oui, pas la Grande Guerre, la guerre 39-45. Parce que jusque-là, la science-fiction est très présente, mais elle n'est pas organisée économiquement. Elle est diluée dans une masse de publications extraordinaires, mais n'existe pas en tant que genre, du moins en France. Il va falloir attendre les années 50 pour que cette science-fiction devienne un genre littéraire facilement reconnaissable et génère ensuite le fandom que nous sommes, ainsi de suite. Ceci dit, je crois qu'il faut quand même faire un petit rappel pour montrer que la science-fiction est présente et que la science-fiction moderne, surtout, est l'héritière du progrès technologique. Dans les premiers temps, on ne conçoit ce nouveau genre qui n'a pas de nom que comme un prolongement dans le futur des innovations technologiques. Et ça se voit particulièrement au travers de certaines publications, comme Le Petit Inventeur, qui est une publication d'Albin Michel, une publication très sage, qui est destinée à la jeunesse, mais qui a une ambition de formation. Et on remarque sur ce numéro-là qu'apparaît déjà un robot domestique qui est vraiment un robot de science-fiction. Il est articulé, il a même un visage, et il s'adonne aux tâches ménagères les plus basses, mais elle est plus agréable pour le protagoniste de l'illustration. Et ce genre de vision du futur idyllique va être très présent dans ces publications-là. Alors souvent en couverture, mais il fait aussi l'objet de temps en temps de publications de nouvelles, de textes, qui sont naïfs, qui sont anecdotiques, mais que nos amis chercheurs qui se trouvent dans la salle savent bien que l'on peut trouver très fréquemment. Alors, il y a cette vision-là de la science-fiction, qui est une vision somme toute domestique, mais déjà apparaît une vision beaucoup plus belliqueuse, et on s'est rendu compte, au travers en particulier de la guerre 14-18, que la technologie pouvait déboucher sur la création d'armes destructrices. Et donc la science-fiction va s'emparer de ces thèmes-là et des quantités extraordinaires de scientifiques français vont travailler à la protection du pays et par le développement d'armes extraordinaires, en particulier des rayons de la mort. Alors le rayon de la mort, c'est vraiment l'arme de science-fiction par excellence, parce que c'est un armement qui ne se voit pas, qui est propre, mais qui est extrêmement destructif. Et on va trouver dans Le Petit Inventeur, toujours, mais je répète, ailleurs aussi, cette vision d'une science-fiction qui va rentrer au service du pays. Et il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, la plupart, pour ne pas dire la totalité des publications, sont des publications patriotiques, où l'idée de la France n'est pas un vain mot. Donc toutes les inventions scientifiques vont être au profit de la France. bien que l'on puisse trouver des inventions scientifiques de science-fiction entre les mains de perfides allemands en général, dirigés contre notre pays, mais qui seront contrés par nos scientifiques bien plus intelligents que les totaux. C'est de notoriété publique. On sait bien qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus d'entreprises françaises que germaniques dans ce domaine-là. Et puis, là, on a vu deux facettes de la science-fiction, disons, des origines, qui est une science-fiction technologique, mais appliquée. La science-fiction domestique, la science-fiction militaire, mais l'imagination ne cesse pas là, elle ne s'arrête pas, et elle passe à un degré supplémentaire qui va être, non pas l'univers dans ce cas-là, mais enfin, des inventions technologiques qui peuvent avoir une origine autre que terrestre, une présence d'extraterrestres, une présence de l'univers. On assiste à une ouverture vers l'univers. Et dans le cas de l'art fulgurante ou d'autres ouvrages, on n'a pas simplement une visite des terrestres sur les étoiles lointaines, mais on peut aussi avoir, on imagine que l'on peut recevoir la visite d'extraterrestres. Alors, bien entendu, Wells a pratiqué le thème, mais en France aussi, on le retrouve dans ces publications-là. Alors, Jean de La Hire est un peu, disons, l'auteur de science-fiction du début du XXe siècle, par sa productivité, par les thèmes qu'il a abordés, et puis, même si ce n'est pas un très très grand auteur, par la qualité de ses ouvrages. Donc là, nous avons vu quand même une proto-science-fiction moderne qui va débouler, après la guerre de 39-45, sur une exploitation plus massive du genre, mais toujours dans des publications qui ne sont pas consacrées au genre. Donc cette série du livre d'aventure de chez Talandier est postérieure à la création des grandes collections de science-fiction. Donc on a déjà vu l'apparition du Fleuve Noir Anticipation, du Rien Fantastique et de quelques autres collections, et on se rend compte que même si cette structuration a commencé, eh bien la science-fiction ancienne dans ce cas-là, parce qu'elle elle découle des grandes collections de populaires de Talandier, où le thème principal était l'aventure et le voyage. Donc on a des voyages extraordinaires qui ont été publiés dans cette collection-là, mais qui sont authentiquement de science-fiction. On peut avoir, par exemple, ici, dans le livre de Magog, l'Obus Surprise, ce n'est jamais qu'un genre de vaisseau spatial. La Nouvelle Babel, c'est une ville de science-fiction. La Croisière du Floréal, c'est pareil, c'est un véhicule extraordinaire. Donc, la persistance de cette science-fiction ancienne dans des publications qui taisent leur nom. Là, c'est le livre d'aventure. Donc on va trouver aussi bien dans cette collection des histoires de Fenimore Cooper, je crois, ou de Daniel Defoe, des histoires très très classiques, mais la réédition de ces histoires de science-fiction qui apparemment ont plu et qui véhiculent un certain modernisme par rapport au reste des publications de la collection. Mais ce n'est pas intégré dans une collection de science-fiction. Pourtant, Talandier, qui était un des deux éditeurs populaires les plus actifs de la période avant 39-45, aurait eu la possibilité de créer une collection de science-fiction. Or, il ne l'a pas fait, il n'y a jamais cru, parce que probablement cette notion de genre n'existait pas chez cet éditeur, hormis les genres KPDP, policiers, sentimentaux, qu'on peut imaginer, qui étaient un peu présents dans la littérature de l'époque. Mais l'amateur a la bonne surprise, en fouillant les bacs des bouquinistes ou sur les vies de grenier, de trouver ce genre d'ouvrages qui sont authentiquement des ouvrages de science-fiction. Talandier continuera pendant toute son existence à publier de la science-fiction. On voit là encore que ce n'est pas une science-fiction très audacieuse, la science-fiction de Talandier, c'est une application technologique. On voit bien que la science avance et qu'elle va donc générer des nouveautés qu'on n'imaginait pas précédemment. Ici, on n'a jamais qu'un véhicule extraordinaire supplémentaire. Donc ce n'est pas l'audace qui prévaut dans ce genre de roman, c'est un outil nouveau qui va se mettre au service du voyage, qui est le thème principal de ces collections-là. On peut trouver la science-fiction par hasard aussi dans d'autres publications qui sont moins évidentes et où on va avoir affaire à des scientifiques, toujours, puisque la science-fiction est toujours associée à la science, qui vont utiliser des techniques modernes pour réaliser des prouesses, par exemple réveiller des momies, visiter des civilisations disparues, des temples anciens. Et alors là, on va avoir droit à toute la gamme d'inventions scientifiques qui s'étend de nouveaux rayons au sérum qui permettent ou de transférer la personnalité d'un corps à l'autre ou de révéler des vies passées. En fait, tout est possible dans la mesure où le scientifique qui procède à l'expérimentation est crédible. Et il va exister ainsi une foule de ces savants, comme je le précisais tout à l'heure, dans ces publications qui sont bon marché et qui sont toujours contemporaines des grandes collections de science-fiction. À la même époque, sous le signe de l'aventure, c'est une collection qui est parue juste après la guerre, il y a déjà des prémices. Et n'oublions pas qu'aux États-Unis, c'est une période où les publications destinées les publications de science-fiction vont entamer une métamorphose très sérieuse, puisqu'elles vont passer des pulps qui sont déjà pratiquement terminés aux collections de poche. Donc c'est un monde qui est extrêmement vivace, où la science-fiction est reconnue, elle a ses codes, elle a déjà son fandom, elle a plusieurs publications qui lui sont consacrées, et en France, à cette période-là, on ne peut la trouver qu'au hasard de ces brochures. Mais arrive à la fin de la guerre un renouveau en France. Il s'est passé, bien entendu, on le sait tous, un bouleversement. La guerre, l'occupation, l'arrivée des Américains, la victoire et un nouvel enthousiasme. Alors qui va se manifester notamment par la publication de journaux qui sont un peu plus audacieux qu'avant-guerre, et qui vont utiliser aussi la couleur, ce qui n'est pas la couleur comme celle que l'on voit ici, n'est pas très généralisée avant-guerre. On a quand même des publications assez sérieuses, sauf bien entendu pour les enfants, puisqu'on a déjà eu affaire à la parution de journaux comme le journal de Mickey, qui sont des journaux d'inspiration américaine, colorés. Mais jusque-là, la presse française était quand même assez timorée. Après-guerre, on constate, une fois que les problèmes techniques sont réglés, puisqu'il faut tout remettre en marche, les premières publications sont assez ternes, sont souvent des collections en deux couleurs, noir, rouge. Mais très vite, dès 1946, ici je vous ai mis une publication de 1948, mais dès 1946, même fin 1945, pour les publications qui sont rattachées à l'armée ou aux éditions proches du pouvoir, on a de la belle couleur. Et V Magazine, c'est un journal très important, non pas parce qu'il publie des pin-up, comme dans ce spécial de l'été 1948, mais parce qu'il va se tourner vers la culture américaine. Il va faire son fonds de commerce des actrices, des starlettes du cinéma, et profiter de ces couvertures qui sont presque au format tabloïd pour présenter une vision un peu plus agressive de la presse dans notre milieu éditorial. Et on va trouver aussi dans ce journal un traitement de l'actualité qui se rapproche un peu du grand journal d'avant-guerre qui était Voici, mais aussi ce côté ludique, ce côté sexy, qui est arrivé avec le cinéma américain et surtout la présence des G.I.s en France. Alors apparemment, c'est un journal qui reste malgré tout relativement conventionnel. Oui, oui et non. Parce que si V Magazine, l'hebdomadaire, est conventionnel, se contente de publier ce que je vous ai expliqué, des articles assez classiques, son supplément, qui est placé aussi sous la direction de Georges Gallet, va se mettre à publier régulièrement, d'abord tous les 6 mois, ensuite tous les trimestres, des textes de science-fiction, et en particulier toute une série de textes de Jacques Spitz, qui va devenir un habitué et qui offrira à chaque numéro une nouvelle et qui sera illustrée, qui n'est pas placée en tête de la publication, mais qui sera bien présente régulièrement et qui, pour l'amateur de science-fiction qui cherche à l'époque la science-fiction perdue, va procurer un point de rassemblement, un des deux points qui vont exister en dehors des fameuses collections dont on a parlé, qui sont des collections très sérieuses, des collections de librairie, alors que ces publications sont des publications de kiosques. Voilà, par exemple, la page de La planète des femmes invisibles par Jacques Spitz, qui est illustrée. Alors, le propos, c'est un propos humoristique, mais il n'empêche que la nouvelle qui est publiée est authentiquement une nouvelle de science-fiction. Là, il n'y a pas besoin d'artifices technologiques pour publier de la science-fiction. On est vraiment de plein pied dans la science-fiction que nous aimons. Science-fiction qui peut être relativement naïve ou orientée. On a vu que V Magazine était une publication qui s'intéressait au pin-up. On a assez vite l'apparition de pin-up dessiné par Morvan, par David, et les histoires de science-fiction qui sont publiées dans V Sélection sont des histoires où on a un petit caractère sexy, ce qui fait passer le thème d'autant plus facilement. Mais dans certains numéros, on a des articles qui montrent que la science-fiction existe ailleurs qu'en France. On a par exemple cet article de France Roche qui explique pourquoi elle aime la science-fiction. Ça, c'est une publication, c'est un numéro qui est de la fin des années 50. Et ce n'est pas du bluff, quoi. Il y a la reproduction de couverture de Pulps. La science-fiction est prise au sérieux. Bon, on ne s'en étonne pas, Galé est derrière. Mais c'est un des premiers articles qui font état de ce foisonnement américain que nous ne connaissons pas. Alors que déjà, ces publications-là n'ont plus cours aux États-Unis, puisque tous ces Pulps ont disparu au courant années 50, donc 2-3 ans avant la publication de ce V Magazine. Et en plus de V Magazine, donc qui publie épisodiquement de la science-fiction, nous l'avons vu, tous les 3 mois, est né, toujours pareil, à la fin de la guerre, le magazine Boléro. Boléro, dans ses premiers numéros, se présente comme un journal qui est pour tous, c'est un journal d'aventure, d'histoire pour tous. Mais c'est une publication des éditions mondiales, donc une publication des éditions Chino del Duca. Et del Duca fait partie d'une grande maison d'édition italienne et qui profite de l'expérience italienne. La presse italienne, déjà, est très dynamique. Elle a essayé beaucoup de formules. Elle a expérimenté un peu tout ce qui était possible et elle a dégagé des créneaux de publication. Et donc, del Duca importe en France quelques-unes de ses idées. Donc, on verra notamment une de ses idées qui marchera extraordinairement à partir du milieu des années 50, c'est-à-dire le roman photo, qui va générer des milliers, voire même des dizaines de milliers de fascicules et un emploi généralisé qui perdure d'ailleurs encore aujourd'hui. Mais avec Boléro, on a un journal hybride. C'est un journal qui propose l'aventure. Mais dans cette aventure, il y a la science-fiction. Alors ici, je vous ai mis une couverture d'un numéro des numéro 33, comme ça, qui est la couverture la plus typique, où on a vraiment une scène de science-fiction. Mais dès le numéro 1 de Boléro, nous avons droit à un roman photo qui est inspiré de Benoît, plus ou moins, de l'Atlantide, c'est-à-dire une expédition saharienne qui va tomber sur une cité perdue qui dispose de champs de force, d'armes à rayonnement et d'une technologie supérieure, disons, par certains côtés, alors que tout le folklore est celui de la Rome antique, pratiquement, de l'Égypte, mais qui dispose d'une technologie donc, que nous ne maîtrisons pas et que nous ignorons même. Donc, dès le premier numéro, et ce pour une vingtaine ou une trentaine des numéros suivants, nous avons droit à un roman photo de science-fiction. Et en même temps, la publication de courtes nouvelles de science-fiction. en plus de romans photo, de pirates, de westerns, de nouvelles de policières, Sax Rohmer sera publié quelques numéros plus tard dans Boléro. Et Boléro va être un journal relativement riche en science-fiction pendant à peu près ses 150 premiers numéros, avec des hiatus, parce que c'est un journal expérimental qui sert aux éditions mondiales à déterminer quels peuvent être les parcours que sa presse prendra en France. Donc, oui. C'était hebdomadaire. Hebdomadaire. C'est la cité morte, oui.
Et ça semble avoir été tourné dans une carrière.
C'est dans une carrière, et c'est probablement, c'est de toute façon un roman photo italien, et dont les protagonistes sont rebaptisés pour plaire au goût français. Puisque les Italiens, à cette période-là, n'ont plus de colonies africaines, et le désert qui est présenté, c'est le Sahara, donc c'est le désert colonial français. Mais, donc ce journal, c'est vraiment un endroit où l'on peut trouver la science-fiction perdue, et qui va influencer, malgré tout, une génération de lecteurs et d'auteurs. Je vous rappelle que dans une intervention, c'était l'année dernière, Philippe Curval a indiqué qu'il lisait Boléro et qu'il y a découvert et qu'il y cherchait la littérature de science-fiction. Absolument. On va trouver, et ça c'est dans le domaine de la science-fiction, mais je vous le dis, il y a des textes de Sax Rohmer, il y a des auteurs étonnants et qui sont passés complètement inaperçus. Pourquoi ? Parce que cette publication test n'a pas duré si longtemps que ça. Dès le numéro 50, un essai de couverture photographique va être effectué. Et il va durer peut-être une vingtaine de numéros avant de revenir à des couvertures dessinées par Ferrari, Rino Ferrari, et peintre italien aussi, hein, comme Di Marco et comme d'autres qui sont arrivés en France à cette période-là, presque dans les bagages de Del Duca. Et donc, Del Duca va avancer à petits pas, mais il va revenir à une formule, disons, beaucoup plus aventureuse pour la période qui va s'étendre jusqu'au numéro 200 à peu près, et où on va retrouver beaucoup de science-fiction, et en particulier signé par Maurice Lima. Alors bon, on peut aimer ou ne pas aimer Maurice Lima, mais il est très présent dans cette publication, et avec des nouvelles qui sont typiquement de science-fiction. Alors, et en plus, il a la chance de bénéficier de certains dos de couverture qui sont illustrés en couleur. Alors que quand il est publié, et abondamment d'ailleurs, à l'intérieur de la revue, il n'est pas forcément en couleur. Voilà une autre nouvelle de Lima. Et cette fois-ci, on n'a pas la science-fiction que l'on avait dans V Sélection, qui était une science-fiction humoristique, plus ou moins sexy, que l'on va retrouver plus tard, ceci dit. Mais on a une science-fiction sérieuse, qui se veut sérieuse. Alors on connaît tous Lima, le sérieux de Lima est relatif. Mais en attendant, c'est quand même, ce sont des textes qui plaisent aux lecteurs de l'époque et qui vont perdurer très longtemps. Malheureusement, Del Duca va continuer ses expérimentations et se rendre compte qu'un segment de publication apparaît, un segment supplémentaire, c'est la suite de ces expériences italiennes, et c'est celui de la presse populaire féminine. Et Boléro va se transformer en secret de femme au bout d'environ 190 numéros et perdre ce caractère aventureux. Or, secret de femme a ses qualités, c'est assez moderne comme publication pour l'époque, mais par contre, on y perd tout ce qui était science-fiction, tout ce qui était littérature de l'imaginaire. On n'aura plus droit pratiquement, sauf exception, qu'à des romans photo-sentimentaux ou des nouvelles romantiques. C'est dommage, parce que nous avions avec Boléro un embryon de revue qui aurait pu, si le vent avait soufflé différemment, tourner carrément à la science-fiction. Puisqu'on le voit bien là, l'expérience était sérieuse. Et Lima a publié plusieurs dizaines de nouvelles dans Boléro.
C'est le manque de public qui a empêché le virage scientifique ?
Je ne pense pas. Je crois que c'est tout simplement que le public féminin commençait à apparaître. Et puis aussi, la concurrence des autres éditeurs du marché, en particulier les éditions des Remparts, qui avait une gamme féminine assez importante, et puis Dargo que l'on connaît surtout pour les BD, mais qui a eu un secteur d'édition féminine assez important, et où on peut trouver aussi un petit peu de science-fiction, ou du moins du populaire, et qui à une certaine époque a racheté des publications, comme à tout cœur, et a acheté les publications des éditions des Remparts, et a constitué un bloc de périodiques féminins assez important, et tout ça, bon, les éditeurs, vous le savez, se copient les uns les autres. Donc quand un éditeur voit qu'un secteur nouveau apparaît chez un concurrent, il va l'observer, et puis il finira par obtenir les chiffres de vente, ou même tout simplement, agressivement, va faire la même chose. Donc, Deltoka s'est tourné vers le domaine féminin. C'est le début des années 50. Ouais. C'est ça. Et bon, parce que Deltoka est devenu très rapidement un éditeur très très important. Et en particulier, il a un secteur presse pour jeunes qui apparaît et qui monopolise un certain secteur de publication avec la traduction de beaucoup de matériel italien. Alors, ce n'est pas un secteur de grande qualité, mais qui est très vivace et qui va être un de ceux de cette époque qui va perdurer le plus longtemps possible. Alors, sous des manifestations différentes et des tas de titres qui, si je puis me permettre, Jean-Pierre, finira par dégénérer en une publication que vous connaissez toujours aujourd'hui et qui va peut-être vous étonner, c'est Télépoche. L'héritier des publications populaires de Deltoka, c'est Télépoche. Puisque ces essais perpétuels vont amener l'élimination de certains domaines et même les publications de bande dessinée vont être impactées par l'apparition de la télévision. Deltoka va transformer ses titres de bande dessinée en titres de bande dessinée et de programmes télévisuels. Et après plusieurs essais, dont France Télévisions, ainsi de suite, va arriver à la formule de Télépoche, qui, je vous le rappelle, à ses débuts, comprend beaucoup de romans photos, dont au tout début un roman photo qui peut être de science-fiction, puisque c'est un agent secret qui est... c'est pas James Bond, en fait, il est doté de pouvoirs particuliers, c'est de la science-fiction, et beaucoup de bandes dessinées. Et ensuite, tous ces... Bon, les romans photos ne deviendront plus que sentimentaux, la bande dessinée va devenir anecdotique, puisqu'elle ne fera que reprendre des bandes américaines, mais au début de Télépoche, nous avons des bandes dessinées de création française.
Oui. Je voudrais signaler une coïncidence. C'est que, vers 1952, les éditions Nuit et Jour publiaient une série de. Un magazine intitulé Rêve.
Oui.
C'était des aventures sentimentales en roman photo. Et donc, ça fait déjà concurrence aux publications d'Egduka. Et ensuite, en 1953, les éditions Nuit et Jour achètent le droit de publier la production du Galaxy américain. Et
voilà.
Ce sont eux qui publient les 65 premiers numéros
de Galaxy.
De Galaxy.
Ouais.
Et donc, il y a peut-être aussi le fait que Nuit et Jour a acquis l'exclusivité des nouvelles de science-fiction du Galaxy américain.
Voilà, absolument. Donc, le créneau étant occupé, Deltoka s'est dirigé vers ce qui était plus lucratif de toute façon pour lui à l'époque. Et Del Duca a bâti sa fortune sur la presse féminine. Il y a aujourd'hui encore une fondation Del Duca qui n'est plus présidée par son épouse, elle est morte il n'y a pas très longtemps, mais qui est extrêmement fortunée. C'est un éditeur qui s'est acquis une réputation de mécène, d'homme très généreux, même si au sortir de la guerre, quelques doutes ont couru sur son comportement. Mais ça a été vraiment, disons-le, un éditeur paternaliste et qui a quand même été très généreux avec sa fortune, avec ses publications. Il a participé, par exemple, ses imprimeries étaient basées en grosse partie à Biarritz. Et c'est quelqu'un qui a laissé un très bon souvenir à Biarritz parce qu'il a participé à la construction du stade. Il a vraiment ouvert son portefeuille de très nombreuses fois. Et la presse Del Duca, les éditions mondiales, sont intéressantes à visiter parce que c'est l'histoire d'une grande famille de presse mondiale. Et donc, à partir de ces publications, on a une vision de l'interaction de la presse mondiale. Il est venu en France.
Il est venu en France, oui, mais précédemment, il avait parlé en personne au Duce.
Voilà.
Et le Duce lui avait dit, mais bon, on sait pas, mais vous restez italien. Il répondait, vous êtes italien, n'est-ce pas? Et il répondait, non, je suis garibaldien.
Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que Del Duca, qui est Chino, puisqu'il n'était pas l'aîné de sa fratrie, est venu s'installer en France. Mais toujours avec cet œil transalpin, et puis en bénéficiant de l'expérience de sa famille, et puis du matériel. Parce que c'est quelqu'un qui est arrivé avec un matériel extraordinaire en France. Donc il suffisait de traduire. Alors à une époque où il n'y avait plus de moyens de production dans notre pays. Voilà. Donc on a quitté cette presse, disons, du début des années 50, pour se rendre compte que la science-fiction que nous recherchons se situe partout. Et on va la voir avec Pierre Devaux, qui, vous le savez, a publié des quantités de textes de science-fiction qui sont connus dans des collections plus ou moins éducatives, mais que l'on peut retrouver avec cette vision. Parce que chez lui, c'est extrêmement présent, de la super technologie, donc le développement des robots, la domotique, et dans des textes plus légers, destinés à un public, disons, plus frivole que le public enfantin ou adolescent qu'il visait auparavant. Et nous avons aussi, nous n'en avons pas parlé jusqu'à présent, un secteur de publication très important dans le paysage éditorial français à l'époque, c'est le secteur de la presse confessionnelle. Pour tout dire, c'est la presse catholique. Et la presse catholique est verrouillée par deux, trois éditeurs qui sont tous plus ou moins contrôlés, sinon par de grandes familles catholiques, ou alors carrément par la hiérarchie de l'Église. Mais c'est une presse dogmatique. La science-fiction n'a pas bon genre chez les religieux, parce qu'elle s'oppose au dogme. Jusqu'à très récemment, bien que cette semaine, nous étions à Conques, nous avons entendu un discours qui m'a surpris, mais en attendant, venant d'un curé, mais en attendant, jusque-là, l'être humain a été fait à l'image de Dieu et est unique dans l'univers. Donc, imaginez qu'il puisse exister dans les planètes exotiques des créatures intelligentes, cultivées et qui ne soient pas simplement des animaux, ça n'a pas bonne presse, justement, chez la bonne presse, dans la presse catholique. Donc, toute la science-fiction, disons, intelligente, percutante, va être bridée chez cet éditeur-là. Et on ne veut pas en entendre parler. Alors, on conçoit une science-fiction humoristique, très rarement, mais, en général, on ne trouve pas chez eux de vrais livres de science-fiction. On ne devrait pas, parce qu'il y a quand même des exceptions. Et en voici une, aux éditions du Chardon, un livre de Georges Fronval, alors qui, en aparté, a été un acteur très très important de la littérature populaire de cette période-là, qui a écrit beaucoup de westerns, mais aussi du policier et quelques science-fiction. Mais vous voyez bien qu'ici, Même si la couverture est tout à fait édifiante, ben, le livre est présenté comme un roman d'aventure. C'est surtout pas un roman de science-fiction. Alors qu'il est, je vous le répète, il a été publié à une époque où il y avait déjà des collections de science-fiction établies et qui prospéraient, en tout cas pour le Fleuve Noir.
Une autre exception, je peux la citer ?
Oui, si tu veux.
Bon, mais bien, dans un magazine Curaillon, comme Bayard, à un moment donné, vers 1955, on a commencé à parler un peu de science-fiction. Et on a publié une adaptation du film Destination Lune.
Tout à fait.
Et cette adaptation était faite par un auteur maison. Il a paru en plusieurs épisodes avec des photos du film. Et encore une chose, en 1960, encore. Bon, moi j'étais chez les curés, dans une boîte à curés. Il y avait des listes de prescriptions de magazines qui étaient affichées, qui étaient interdits dans l'enceinte de ces boîtes à curés. Et tous les magazines Artima de science-fiction étaient prohibés.
Tout
Donc,
à fait.
Ça a duré quand même.
Tout à fait, oui. Mais c'était cette persistance du dogme. Et alors je disais qu'il y a une semaine, j'ai entendu un discours différent où le ciel, Dieu au ciel, ben, c'était plus vraiment le paradis, c'était l'univers. Et ça m'a choqué, puisque le dogme était mis à mal. Peut-être que c'est le nouveau dogme de l'Église catholique aujourd'hui, je n'en sais rien, celui qui va arriver. Voilà, du pape François. C'est-à-dire que là, maintenant, on a admis qu'il pouvait exister des créatures intelligentes et peut-être même, alors, philosophiquement, conçu à l'image de Dieu aussi, ailleurs que sur Terre.
À évangéliser.
Peut-être, on n'en est pas encore là. Oui. Donc, une autre collection catholique de l'époque, qui est la collection La Frégate, qui n'est pas une collection audacieuse du tout, qui est plutôt orientée vers le public féminin, mais qui publie aussi un roman de science-fiction. Parce que, malgré tout, eh ben, nos amis ecclésiastiques ont le souci de paraître modernes et acceptent certains thèmes. Bon, là, dans ce roman-là, il n'y a pas de présence extraterrestre, bien entendu, mais c'est indéniablement un livre de science-fiction. Alors que, à la même époque, quand on illustre les romans, on a ce genre de fascicules qui paraissent à la bonne presse, la maison automobile, où on a une autre préfiguration des camping-cars, alors complètement fantaisiste, mais c'est un peu fantaisiste en ce sens qu'avec ce véhicule, les héros vont traverser les continents dans des conditions les plus rocambolesques. Mais voilà l'image de la science-fiction publiée par la bonne presse. C'est quand même vieillot, on en reste à des thèmes technologiques déjà surannés. Mais on n'oublie pas, avant de partir, de faire bénir le véhicule par M. l'abbé. Alors, je vous ai épargné la photo, mais c'est réel. Monsieur l'abbé bénit la... Bon, c'est... Ah non, là, je reviens arrière. Ah non, oui. Donc, c'est une littérature édifiante. Donc, dans tous les domaines, l'Église est présente. Alors, je conseille à nos amis facétieux de lire quelques-uns de ces livres. C'est des fois bien croquignolesque et bien rigolo. ça l'est parfois plus que certains romans qui se prétendent humoristiques. On abandonne le domaine dogmatique pour simplement aborder des éditeurs de littérature de jeunesse et qui sont très nombreux aussi à l'époque, et qui publient des romans, alors qu'ils sont les successeurs des fascicules que l'on connaît tous, des petites brochures de quelques pages. Alors, ce ne sont pas des collections très généreuses en science-fiction non plus. Mais en attendant, ben, des fois, on voit que l'aventure est au coin du ciel. On comprend bien qu'on peut même faire de l'autostop spatial, et ça marche. Voilà. Donc, la collection Junior, qui est une longue collection, qui va publier des tas d'aventures, des westerns notamment, ou des aventures coloniales, offre aux amateurs ce titre-là, qui est authentiquement dans notre genre, qui se situe bien dans nos collections.
Francis, on a le nom de la collection, là, mais qui est l'éditeur ?
Alors, à ce moment-là, ce sont les éditions des Remparts.
Ah,
voilà. des Lyonnais. Et bon, la collection a commencé sous un autre nom, mais c'était toujours les éditions des Remparts. De toute façon, les Remparts représentent une espèce de nébuleuse éditoriale qui, suivant les secteurs... voilà. Oui. Qui a segmenté ses publications, mais en fait, sont toujours les mêmes intervenants. Maintenant, les éditions des Remparts ont été fondées par un ecclésiastique qui les a dirigées très longtemps. Ceci dit, le financement n'est pas dû à l'Église ou à des amis de l'Église. Donc, on peut se permettre autre chose. Et puis, chez les Remparts, il y a aussi une grande influence italienne avec la publication de tas de journaux qui arrivent tout faits d'Italie. Par contre, cette collection-là est une collection typiquement française. On va y trouver d'Azergues, d'Hermès et compagnie. C'est un peu le pendant de la collection de chez Coccardi, si vous en avez rencontré quelques-uns. Donc une collection essentiellement d'aventures. Alors cette vision technologique de la science-fiction va perdurer assez longtemps. Ici, nous avons une courte collection qui est éditée par GP, mais après le rachat par Hachette, donc comme les séries Rouge et Or et compagnie, où on voit à nouveau apparaître une super technologie. Donc là, en plus, on constate l'effet des premiers films d'aventure type James Bond, où la technologie a un rôle prépondérant. Et ici, et ce volume est amusant parce que nous avons un transfuge des éditions de Vaillant, Pierre Castex, et dans la série, curieusement, on va trouver plusieurs auteurs qui viennent de chez Vaillant, alors que GP est plutôt un éditeur bien pensant. Ça fait partie... Voilà, ça c'est la fin des années 60. Ouais, voilà. Alors, il y a très peu de volumes dans cette collection-là, mais la moitié sont conjecturaux, puisque Castex a écrit, je crois, Denis, et puis Olivier a dû signer 2-3 livres aussi. Et, bon, mais ça montre aussi que l'édition française est perméable. Parce que quand les gens se fâchent quelque part, ils vont ailleurs. Et les concurrents sont contents de récupérer ces auteurs. Alors on revient là maintenant, on va quitter le domaine purement littéraire pour aborder un autre aspect de la science-fiction, qui est la science-fiction dessinée. Alors, c'est de la littérature dessinée, ni plus ni moins. Et... On peut aussi la trouver, quand on la cherche, dans des publications invraisemblables, comme Goupil, qui est un journal qui a 12 numéros à parution irrégulière, et juste après-guerre. Donc ça fait 4 pages, c'est un genre de fou qui a publié un journal. Voilà. Alors, il y avait un abonnement, mais enfin, pas de date de publication définie. Certains numéros sont parus en rafale, d'autres ont attendu des mois. Bon, ça n'a évidemment pas marché, mais... C'est imprimé, non, c'est pas les fanzines, parce que le contenu se veut professionnel. Mais c'est juste pratiquement au sortir de la guerre. Donc ce sont des éditeurs qui se lancent, qui ne sont pas financés. Ceci dit, l'impression ne coûte pas très cher. C'est de la presse, ni plus ni moins. Donc on tente le coup. Mais on voit en page 3, Bidule et Petit Sou dans la planète Mars. Ben, c'est une bande dessinée de science-fiction, qui n'est pas excellente, bien entendu, mais qui montre que dans cette presse, on peut trouver des éléments conjecturaux et que déjà, la science-fiction a fait son chemin. Alors, c'est la vision d'avant-guerre d'une science-fiction humoristique, certes, mais c'est quand même de l'authentique science-fiction. Philippe ? Oui, c'est extrêmement rare. Je te préciserai, il y a 12 numéros en 46-47, je crois, mais je te préciserai de mémoire. Mais c'est la période, hein. La collection complète, je ne sais pas, elle doit exister quelque part, mais moi, je ne l'ai pas complète. C'est très, très difficile à trouver. Voilà. Alors là, on se projette dans un autre secteur, c'est celui d'une presse vraiment professionnelle, d'une presse destinée aux enfants, qui va apparaître sous cette forme-là à la fin des années 50, et qui est aussi l'héritière de la presse Artima de grand format. Et on trouve de la science-fiction dans des publications là aussi invraisemblables. Capriole, ben, c'est, voyons qu'est-ce que ça pourrait être aujourd'hui. Je ne sais plus. Mais en fait, peut-être une publication Milan. Vous voyez, donc c'est un niveau extrêmement enfantin. C'est destiné à des lecteurs très jeunes qui ont environ 6-8 ans. Et bien, malgré tout, on trouve dans ces publications-là des ovnis. Parce que là, on a Radar avec la guerre des ports. Bon, mais on a un vrai héros de science-fiction qui est doté d'un pouvoir et d'un appareillage qui lui permet de lire dans l'esprit des individus et donc de résoudre des histoires policières. Et cette série va perdurer pendant quelques numéros dans une publication qui, ordinairement, ne passe que des séries d'origine italienne loufoques. Mais on en a d'autres. Rocco, par exemple. Rocco, qui est conçu à l'origine comme un journal et non pas comme un petit format. Les éditions Artima vont publier plusieurs publications de ce genre-là, avec en particulier Superboy, mais Rocco aussi, qui sont conçus comme des journaux. Donc, ce ne sont pas, entre guillemets, des albums qui ne proposent que des aventures d'un ou deux personnages. On a dans ces titres-là une variété assez extraordinaire. Et là, je vais faire une petite pub à Jean-Pierre, puisque Les Hommes de Feu sont publiés dans les numéros 30 de Rocco. C'est une bande, si tu veux en faire la retape, Jean-Pierre, tu en as parlé dans un de tes articles, dans un livre qui vient de paraître.
Oui, alors, voilà. Moi, ce que j'ai pu avoir, c'est la publication italienne. En couleur de la version italienne.
La version italienne.
Qui est bon, qui est à peu près respectée hein, dans la traduction. C'est une histoire d'habitants d'une planète inframercurienne.
Les voilà.
Qui descendent sur la Terre et qui ont un satellite autour de la Terre où ils amènent quelques savants italiens. Effectivement. Fantoni, dessinateur, est toujours vivant. Hein. Mm-hmm. Donc, il a progressé quand même.
Oui, il a progressé. Mais c'est loin d'être ridicule. Hein, l'histoire se tient. Bon, dans la version française, la mention mercurienne inframercurienne est effacée. Bon, c'est peut-être dû à la publication. Mais en attendant, on a quand même une vraie histoire de science-fiction qui ne se cache pas dans une publication pour les 5-6 ans. Et alors, dans ces mêmes publications, on reste dans le créneau enfantin et on trouve aussi des histoires de science-fiction qui sont traitées sur ce mode-là. Beaucoup plus, bien entendu. Et d'ailleurs, on sait qu'aujourd'hui, il en existe d'autres et c'est un genre qui... presque autonome, par exemple dans la presse Disney, où Mickey vit des aventures de science-fiction très souvent. Il y a des sous-genres qui sont apparus, Donald est devenu un super-héros, ainsi de suite. Donc l'exploitation de la science-fiction va se généraliser très vite dans ces titres d'aventure, mais là, on le voit bien, c'est parce qu'on est encore sur la pensée que la science-fiction n'est pas sérieuse et qu'elle ne va pas. Elle peut être utilisée pour amuser les enfants. Voilà. Et donc, on va abandonner les petits gamins pour voir que la science-fiction peut être mise à toutes les sauces. Alors, même si c'est dans des livres qui sont bien peu sérieux et où la science-fiction n'est qu'un prétexte et pas vraiment une raison. Donc, par exemple, comme ce livre d'André Héléna, La planète des cocus, qui nous présente une belle illustration de Jeff DeVulf, une illustration de science-fiction. Alors bon, on trouve le livre souvent qui a été réédité, et souvent sans jaquette. Mais la jaquette est très belle. La jaquette n'a pas été rééditée. Ouais. Alors, et on peut aussi trouver de la science-fiction dans des collections d'apparence tout à fait normal. C'est presque un Gallimard, c'est presque la collection de Blanche et Gallimard. Donc, l'amateur de science-fiction va se précipiter sur ce livre, va en être tout à fait heureux et sera fier de lui. Malheur pour lui. Malheur. Parce que ça fait partie des livres trompeurs. Ça fait partie des livres qui vous donnent un coup de cœur, mais vous en aurez encore un plus fort quand vous le trouverez avec la jaquette. Voilà. Il y en a un certain nombre. Donc. Absolument. Enfin. Alors, roman de la Nathalie Hennebert.
Il y en a un dans la même collection, Secoupe Volante, signé Philippe Fobster, qui est un roman de science-fiction érotique, hein, où les femmes de notre planète ont la chatte en travers. Et c'est curieux, moi j'ai un exemplaire sur la couverture, le livre est crédité à Lucien Priori. Et il y a une étiquette avec Philippe Fobster. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais je pense que l'auteur n'a pas voulu que son nom soit compromis. C'est des aventures pareilles.
Voilà. Bon, évidemment, je vous rappelle que j'ai pas, je vous propose pas l'intégralité de tout ce qui est paru hors collection. C'est juste un survol et pour vous dire qu'on peut trouver de la science-fiction, ce que j'ai appelé la science-fiction perdue, dans des domaines invraisemblables et certaines dont on n'imagine même pas. Il y en a partout. Alors ça fait le bonheur, ça fait notre bonheur, parce qu'il y a plein de livres qui sont méconnus, qui ne valent rien, et qui peuvent se rencontrer au détour d'un carton dans un vide-grenier ou chez un libraire, des fois pour des clopinettes. Bon, celui-là, la jaquette étant tellement explicite, et pas si facile que ça à trouver, mais bon, ça peut arriver. Un autre, Meurtre en soucoupe volante de Pierre Tollet, qui est publié dans une collection où il n'y a que du policier. Et là, on a à nouveau une belle couverture de Jeff DeVulf. On a quand même un livre de science-fiction, même si ce n'est qu'un prétexte. Les science-fiction en question, les soucoupes volantes en question, bon, ce sont des super aéronefs, mais enfin, bon, qui n'ont jamais été conçus, qui sont supérieurs aux capacités de l'époque. Et donc, c'est un authentique livre de science-fiction. Par ailleurs, paru dans une collection de qualité littéraire modeste. Je ne veux pas dire que celui-là soit très bon. Hein. Enfin, il y a le petit piment supplémentaire de trouver un prétexte conjectural dans ce livre-là. Et puis, là, on a vu toute la science-fiction qui était perdue ailleurs que dans les collections spécialisées. Mais on va aborder maintenant un domaine. C'est la science-fiction qui ne se cache pas, mais qui est introuvable, ou pratiquement introuvable. Donc dans des collections qui sont spécifiquement dédiées à la science-fiction, mais qui ont eu des tirages très faibles, et ce qui fait que, paradoxalement, certains de ces volumes sont plus rares, par exemple, que ceux que je vous ai montrés auparavant. Et il y a en particulier les 4 volumes de la collection des Horizons Fantastiques, qui ont été déclinés en 2 versions. Alors, moi, je ne connais pas 2 versions pour chacun des volumes. Bon, j'en ai parlé avec Dominique Martel, évidemment. Voilà. Et donc, certains de ces volumes existent avec 2 jaquettes. Alors, ce sont des volumes qui se présentent sous papier, couverture cartonnée blanche, avec un liseré, le titre. Donc, ils sont des volumes trompeurs, comme celui qu'on a vu, le Prioli, qu'on peut acheter comme ça, en se disant « Chouette, j'ai trouvé un livre de science-fiction ». Mais qui sont revêtus normalement d'une jaquette. Et l'univers Vagabond en particulier possède 2 jaquettes différentes.
Je pense que c'est la jaquette de la deuxième mise en vente.
Voilà. Voilà. Et alors, certains prétendent, toi peut-être Jean-Pierre, tu les connais, qu'ils auraient tous 2 présentations.
Tous, je
ne
sais pas.
Mais moi, je.
Il y avait cette présentation-là
pour ce roman. Pour ce
roman. Bon.
Voilà les 4. Voilà, et les 2. Donc, à notre avis, il n'y en aurait que 2 qui posséderaient 2 jaquettes différentes. Si vous en connaissez une 3e, elle sera la bienvenue. On peut l'amener à la vente aux enchères l'année prochaine. Elle devrait générer un chiffre d'affaires important. Voilà, cette sacrée planète. Et ceci arrivera hier. Le Tel Dinaïm qui a publié, le franco-israélien qui a publié d'autres ouvrages, qui a des traductions en italien. Qui a,
Lui,
un
superboy, une nouvelle de science-fiction d'ailleurs.
C'était un auteur relativement actif du domaine, mais qui a disparu assez rapidement. Et puis, la revue... Alors, on reste dans le domaine francophone, parce qu'en Belgique, il y a des revues difficiles à trouver aussi. Mais Science Fiction Magazine, les quatre numéros de Science Fiction Magazine. Alors, c'est une revue de peu de choses, hein. Ça fait quelques pages. C'est pas si vieux que ça, hein. Ce sont les années 50. Mais c'est extrêmement difficile à trouver. Alors, pourquoi ? Parce que ça a été probablement pilonné, la mise en place a dû être très faible, et les quatre numéros... qui ont peut-être été édités en même temps, sont partis au pilon dans la foulée. Une autre collection consacrée à la science-fiction, et là on revient chez Del Duca, les éditions mondiales, c'est la collection Galaxy, et qui, bon, comme son nom l'indique, on a l'impression qu'on va avoir plein de livres de science-fiction. Donc on a Cadavre de cristal de Jacques Lombard, c'est vrai, qui est un assez beau livre, en fait, physiquement, mais la collection s'arrête là. Du moins pour ce qui est de la science-fiction. Puisque un volume suivant va parler de soucoupes volantes. La collection Galaxy se prolonge dans des thèmes qui sortent de notre domaine. On peut admettre que le terme Galaxy soit aussi convenable pour les deux volumes, mais en attendant, c'est une tentative avortée des éditions mondiales, Chino Del Duca, de faire une collection de science-fiction. Oui ?
N'était-ce pas parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette différence entre les soucoupes volante, ce qu'on appelle maintenant l'ufologie et la science-fiction.
Je ne sais pas. Il faudrait poser la question à la personne qui a conçu la collection, mais qui est très brève, il n'y a que deux volumes. Et puis pourquoi faire ce genre de livre qui ne ressemble pas vraiment au livre de Del Duca de l'époque ? Alors, est-ce que c'est une tentative avortée ? Est-ce que c'est... On ne sait pas trop. Et puis, comme c'est quand même un livre sans suite, qui, même s'il appartient à une collection de science-fiction, bon, qui est assez peu connue, je ne sais pas ici s'il y a des gens qui connaissent l'historique de ce volume. C'est un ovni. Alors, en ce sens, il se rapproche de l'autre. Évidemment. C'est peut-être une tentative avortée. Mais en attendant, le deuxième n'est pas la science-fiction. Donc c'est ça qui est curieux. Bah, cet ensemble... Ah oui, d'accord, mais ce n'est pas un livre de science-fiction, le deuxième. Absolument pas. C'est même pas un roman. Donc, voilà. Après, vous connaissez tous ce genre de collection. Ça, c'est la collection Cosmos de Grand Damier. Et qui a été assez... assez populaire, qui a publié plus des auteurs de l'époque et qui a publié Maurice Lima, bien entendu, qui était partout, très actif. Alors, pourquoi est-ce que je vous le montre ? Vous allez me dire, ça n'a aucun intérêt, c'est une collection extrêmement fréquente et qui n'a pas de caractère de rareté. Eh bien, parce que Grégoire Brenin, que l'on a connu plus tard sous le nom de Moineau, qui est devenu un poète, qui est toujours vivant, s'est emparé de ces volumes. Alors, bon, Keller, je passe dessus, parce qu'on ne sait pas trop qui c'est. Voilà. Et il s'est emparé de ces volumes, et lui a certainement eu le complexe de l'auteur littéraire, et il a rejacketé ces livres sous des couvertures différentes, beaucoup plus sobres que les premières éditions. Donc là, on a le phénomène inverse de tout à l'heure, où on va habiller un livre sobre d'une couverture tapageuse. Bon, je dirais pas que les couvertures de chez Cosmos soient tapageuses, mais en fait, c'est pas très sérieux, ces bandes vertes et noires. Eh bien, lui va certainement, bon, je n'en ai pas la preuve, mais il va acheter tous les invendus, et ils sont nombreux, de ses livres pour les rejaqueter et pour les publier aux éditions RB, qui ne sont ni plus ni moins que ces éditions, puisque le B correspond à Brelin, et le R, j'oublie toujours, alors j'en ai amené un, ça correspond à sa compagne, et au nom de sa compagne, qui était Roncari, voilà, Micheline Roncari. Donc aux éditions Micheline Roncari, on va trouver le reprochage de plusieurs des romans de Brelin. Voilà. Voilà. Donc il y a des reprochages, et ce qui est intéressant, parce que ces reprochages sont très parlants, ce qui est intéressant, c'est que ici et sur d'autres volumes, alors j'en ai amené un là, bon, je vous le montrerai ensuite, on a un tirage, et on se rend compte que c'est 5000 exemplaires. Donc ça veut bien dire que les ventes de l'époque dans ces collections-là étaient bien loin d'égaler les ventes du Fleuve Noir, ou même du Rayon Fantastique. Oui, bon, c'est un peu fantaisiste. Oui, bon, mais ça, c'est... Non, mais il y a par un jeune auteur de 20 ans sur tous les titres, et puis, vous allez voir, je vous ai photographié le dos de couverture, c'est rigolo, je vous ai amené ici un volume postérieur qui n'est pas de la science-fiction, mais qui est revêtu d'un bandeau, où il y a des mentions assez croquignolesques. Ça, c'est, le premier volume de Brelin qui s'éloigne de la science-fiction, qui est un roman... De réaliste, un genre d'autobiographie. C'est le genre qui va ensuite...
Un exemplaire qui sera mis à la vente aux enchères, de dédicacé par l'auteur.
Oui, alors ce que je voulais dire, c'est que tous ces reprochages, alors j'en ai un certain nombre, je les ai tous signés. Donc il est probable que Brelin n'a jamais vendu, ou alors il les a vendus en salon, et ainsi de suite, ces livres ne sont jamais revenus en librairie. Il les a diffusés lui-même, et il les a souvent offerts, parce que celui-là aussi est dédicacé, bien entendu. Donc ça, c'est presque de l'édition à compte d'auteur, quoi. Et ils sont relativement fréquents, et donc tous signés.
Oui, c'est ce que j'allais te demander.
Oui, alors ça, vous allez le voir, là, dans le dos des volumes, Brelin, qui est présenté par la presse de droite, ah, c'est amusant, hein, et par Keller, donc qui n'existe pas, qui doit être certainement lui-même, comme un auteur original, nouveau, et dans sur ce bandeau, par exemple, oui, il dit « Ce livre de deux écrivaines de 20 ans est une réponse à l'univers de Françoise Sagan. Non, Madame Sagan, tous les jeunes ne pensent pas comme vous. » Voilà. C'est c'est la révolte de Brelin qui se rebelle contre l'esprit de la jeunesse que véhicule l'œuvre de Sagan.
Le Satan.
Voilà. Et donc là, il y a le même dos. Alors, je vais le lire.
Francis, tu parlais de quelque chose qui valait très cher aux enchères. Si quelqu'un trouve un livre de Brelin non dédicacé,
voilà,
on est plusieurs à en chercher. Hein.
D'accord. Voilà. Ah oui, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs qui ont des mémoires de Moineau. Hein. Plusieurs volumes. Hein.
Ouais.
Ouais, ouais, ouais. En librairie, les lecteurs ne trouvent plus de littérature moderne, gardant en elle l'étrange petite fleur bleue qui fit rêver tant de générations. Désormais, l'auteur s'inspire de la sombre actualité, la rêve devenant désuet. C'est ça? Ouais, en fait, c'est pas très... Ouais, ça veut rien dire. Hein. Ah, c'est nous. Attends. Pourtant, je persiste à croire, avec Cocteau, que le rêve et la fantaisie sont des reflets nécessaires pour égayer notre triste époque, maintenant plus que jamais. Donc c'est un poète un peu réactionnaire, et bon, qui a un parcours, J'ai un parcours intéressant, ceci dit. Hein. Bon, sa littérature vaut peut-être pas très cher, mais moi, ce que je retiens de lui, c'est au travers de ses reprochages, on a des chiffres proches de la réalité quant aux ventes de ces collections-là. Ici, il y a indiqué 8 millième exemplaires, mais c'est faux. Et je suis sûr que le 5 millième qui est indiqué sur les autres volumes est aussi faux. C'est probablement, allez, 2000 exemplaires. Bon, c'est ridicule, 2000 exemplaires, donc on passe à 5000. Mais ça veut dire que la collection Cosmos se vendait à très peu d'exemplaires.
Oui, je peux citer mon anecdote.
Oui.
La raison pour laquelle ils se sont séparés. Bon, là, on voit que c'est signé des éditions RBE, donc sa femme.
Oui.
Et le sien. Bon, en fait, ils se sont séparés parce que la femme de Keller le trompait avec Brennan. C'est bon, ça.
Lui trompait Keller aussi, puisque la mention de Keller n'apparaît plus sur ses recherches. Alors, si effectivement Keller est un écrivain qui a existé, on peut se demander qui était-il, puisque après cette collaboration, il n'y a plus de livres de Keller. Oui, mais est-ce qu'il a vraiment écrit avec Brennan? C'est la question qu'on peut se poser. Parce que là, sur tous ces rebrochages, Keller disparaît. Et puis, tu as en permanence, tu as le livre. Bon, là, tu as ce livre de deux écrivains de 20 ans, mais c'est avec sa femme. Alors qu'avec Keller, c'est toujours le livre d'un écrivain de 20 ans.
Oui, mais c'est
avant
de cocu.
Ah oui, c'est dit. Pourquoi pas.
Il n'y a aucun lien avec le David H. Keller qu'on a vu apparaître au Fleuve Noir.
Non. Ah. C'est Brennan. Oui, bon, voilà. Donc, ce qui voudrait bien dire que... Ouais. Ce qui voudrait bien dire que Keller n'existe pas. Alors, pourquoi on pourrait lui poser la question?
Je pense qu'il a existé.
En tant qu'écrivain. En tant qu'écrivain. Ensuite, là aussi, vous allez me poser la question, mais attends, c'est une édition métal. Bon. Pourquoi passer ce genre d'image? Eh bien, parce que ça fait partie de la science-fiction publiée dans une série de science-fiction et qui se cache. Alors, vous savez très bien qu'il existe jusqu'à 4 présentations différentes des volumes des éditions métal, mais qui plus est, il y en a un rarissime qui est La Tentation Cosmique, qui a été publié en version de bibliophilie, c'est-à-dire sous coffret, avec suite d'illustrations. Et cahier non cousu et en folio et imprimé sur du beau papier. Le tirage est de 100 exemplaires. Et la suite est constituée, bon, le livre s'y prêtait forcément, les dessins sont peut-être pas terribles, mais ils sont au goût de l'époque, et d'une douzaine de dessins érotiques. Et c'est certainement le livre des éditions. Certainement, bien entendu. C'est le livre des éditions Métal qui est le plus difficile à dégoter, évidemment. Il y a 100 exemplaires. Alors, ils étaient destinés à l'auteur qui les a dédicacés, numérotés lui-même. C'est un assez beau livre, finalement, un assez bel emboîtage. Et c'est une des pièces de collection de science-fiction. Disons la plus rare. Alors il en existe quelques autres, mais souvent c'est un peu comme avec Brennan, ce sont des livres qui ont été récupérés et enrichis par l'auteur, voire d'un dessin supplémentaire. Bon, mais là c'est plus du cadeau, alors que ça c'est de l'édition traditionnelle. Oui, c'est signé. Ouais. Alors moi je suis plus près, mais je vois pas. Et après, dans le livre, il n'y a que la justification qui est en plus. Il y a la suite, bien entendu, et la justification. Ceci dit, si vous prenez les exemplaires, la première édition qui donc doit être un brochet métallisé, vous verrez qu'il y a fait mention du tirage de luxe de 100 exemplaires du livre. Après, nous allons aborder, toujours dans ce chapitre de la science-fiction qui se cache, dans les collections de science-fiction, des aberrations. L'une d'entre elles, c'est ce fameux roman « Ce n'est pas pour demain » de Corneuf, qui, chez le même éditeur, suivant les brochages, change de titre, voire même de couverture.
Non, ça c'est la couverture originale, les autres sont des...
Oui. Et voilà, les trois. C'est le même livre. Les trois présentations du même livre. Cambleuf. Ce sont les soldés. Mais dans les sélections, il y a donc un changement de titre. Ah, maintenant, nous avons vu la science-fiction presque partout, parce que ce n'est pas fini. J'espère que je ne déborde pas trop. Tant qu'on ne vient pas, nous... Hein? On s'occupe. J'ai 4 heures. Mais bon. Quelle heure est-il? 10 minutes, bon, ça va être un peu court. Bon, on a vu plein de domaines, on a vu les domaines enfantins, la littérature. Oui, voilà. La science-fiction presque. Non, bon, enfin. Les jeunes, les curés, tout ça. Bon, maintenant, on va s'occuper des adultes. Et donc, on peut trouver de la science-fiction dans les collections érotiques. Et en particulier, cette belle collection. Alors, ça, c'est pas l'édition originale. Parce que l'édition originale, qui est parue quelques mois plus tôt, est moins jolie, de moins grand format. Mais en fait, c'est notre ami Dominique Verso, c'est-à-dire Jimmy Gueux, qui a commis cette série de livres. Il y en a eu 4, qui ont eu l'insigne honneur de la réédition, voilà. Mais aussi deux rééditions modernes chez Gérard de Villiers. Donc, absolument, en général que l'on méconnaît, mais signe que le texte a dû avoir une certaine portée, un certain retentissement, puisqu'on l'a sous deux formes différentes chez Gérard de Villiers.
Si quelqu'un le trouve dans la collection OVNI soit qui mal y pense, je suis preneur.
Et puis, on va aller un peu plus vite. On disait l'autre jour à Causerie Fiction que. Oui, j'ai 5 minutes. Bon, qu'il n'y avait pas beaucoup de traductions du français vers l'américain, mais c'est pas vrai pour tout le monde, puisqu'on a Yolanda en édition américaine. Donc c'est Dominique Verso qui a bénéficié de cette belle édition.
Oui, je vais vous dire une chose, c'est que l'édition originale de Poche en français a été distribuée au Canada, et que tout le restant a été également soldé au Canada ou au Québec.
Ah, donc Dominique Verso... Voilà, est très fréquent au Canada. Alors, dans les collections un peu sexy, on a aussi ça. Alpha, agent supranormal, vous imaginez quelle est sa supranormalité. Donc, c'est un peu inspiré de James Bond et compagnie. Il y en a eu qu'un dans la série Espionnage Fantastique. Alors, ça, c'est vraiment du pop art. C'est un très beau volume avec des couleurs. C'est psychédélique. Alors, on reste toujours, je vais aller un peu plus vite, dans le domaine coquin sexy. De la presse, cette fois-ci. On revient à la presse avec des publications comme Paris Flirt, qui, bon, à l'origine, c'est un grand journal, après-guerre, bon, c'est... Mais dans les années 60-70, le format se réduit, et on constate aussi l'apparition de science-fiction. Alors là, c'est bien pratique pour les dessinateurs érotiques, puisqu'ils peuvent, en bravant la censure, mais sans le faire tout à fait, proposer des aventures sexy qui se passent sur des planètes lointaines, avec des filles quand même très délurées, très libres, et des histoires amusantes. Donc, on a dans cette série, dans Paris Flirt, des séries des bandes dessinées de science-fiction qui sont pas si mal fichues que ça et qui dénotent encore une fois de l'influence de la science-fiction dans la presse. On reste toujours dans la presse avec les séries de romans photos que vous connaissez tous. Alors ça, tout est italien. Alors, ce ne sont pas les éditions mondiales, ce sont des éditions qui ont été importées pratiquement les Italiens qui produisaient des éditions françaises. Alors, vous connaissez tous Star Ciné Cosmos qui reprend des films de science-fiction en roman photo. Alors oui, bon, ça ne vous étonne pas. Mais en attendant, il y avait des romans, plutôt des nouvelles de science-fiction, dans ces brochures-là. Et je vais revenir tout après aux brochures. Et on a aussi les romans photos croquignolesques, comme Kimba, où on a des thèmes de science-fiction, on a même des thèmes de super-héroïques. Alors c'est absolument illisible, mais si vous arrivez à les trouver, achetez-les, ça vaut le coup, ça fait toujours rire un visiteur dans une bibliothèque, il retiendra moins ce genre de volume de vos livres austères. Alors, ça, c'est décliné pratiquement à l'infini. Ce sont des films italiens, c'est le cinéma B italien. Là, on a Zatan, on a Antar, c'est exactement le même bonhomme, et qui lutte très souvent contre cette espèce de yéti, de gorille, qui est intelligent. Voilà. Mais dans les autres publications de romans photos, donc de western, mais il y a aussi de KPDP, de chevalerie, de romantique, on a aussi des nouvelles de science-fiction. Des nouvelles italiennes. Voilà, il a publié. On peut dire qu'il est italien lui aussi. Alors certains textes sont à suivre et d'autres non, forment des entités complètes. La science-fiction a marqué son temps puisque les humoristes vont s'en emparer assez rapidement. Et on a en particulier là un livre de Jean Bellus qui présente une belle illustration de science-fiction en couverture, même si à l'intérieur, c'est pas si riche que ça. Il y a quand même quelques dessins de science-fiction. Alors je vous en parle pour ouvrir le chapitre de la science-fiction dans les revues humoristiques qui ont proliféré à l'époque. Alors, elle n'est pas très présente malgré tout, parce que ces revues-là sont orientées sexy, et des cosmonautes, c'est pas si sexy que ça, quoi. Hein. Donc même s'il y a une nana nue dans son scaphandre, ça fera pas vendre la publication. Mais on trouve quand même des fois des pages destinées, une minute, à la science-fiction. Voilà, avec des gags très rigolos, mais que vous ne lirez pas. La Salvie profite quand même du thème pour Pat Mallet. Pat Mallet, lui, est publié dans Lui, avec une série régulière consacrée à la science-fiction. Ce sont les petits hommes verts qui sont des vicieux. La science-fiction est aussi utilisée par la publicité, et nous avons là une brochure de Milia Frère qui présente les aventures de Super Milia, dans un genre pop art pour vendre les produits locaux. On a de la science-fiction importée de l'Angleterre en bande dessinée dans telle poche avec Météor le Vengeur. Et pour finir, je vais être dans les temps, même dans Bonne Soirée, il arrive que l'on rencontre de la science-fiction. Alors, le sauvage et la tendre obstinée, c'est pas du tout de la science-fiction, mais que voit-on dessous? Une nouvelle policière d'anticipation dans un supplément détachable de Bonne Soirée. Et maintenant, sous la pression dictatoriale de l'organisateur de la convention, je vais vous abandonner en espérant et ayant donné aux quelques rares qui ne s'adonnaient pas à ce vice le goût de rechercher la science-fiction perdue dans les publications des années 50.
Merci. Je suis le premier navré de être obligé d'interrompre description absolument polymorphe, non pas que je me traite de pervers, mais que nous faisait Francis de toute cette littérature. Faudra d'ailleurs que je pose d'autres questions tout à l'heure. Le champion de la SF va être désigné dans l'heure grâce à la.